Sujet de discussion.
Présentation, Sonia Mission.
Bonjour et bienvenue à toutes et à tous. Chaque année, des millions de femmes et de nouveau-nés dans le monde bénéficient des soins de sages-femmes. Chaque jour, des milliers d'enfants naissent, leurs mères sont prises en charge et des vies sont sauvées par des sages-femmes. Pour mettre en lumière la profession de sage-femme en Côte d'Ivoire, les réalités du métier au quotidien, nous sommes avec l'association des sages-femmes ivoiriennes ASFI, Oulémaka Lucie. Bonjour.
Bonjour madame.
Vous êtes sage-femme et membre de l'ASFI.
C'est ça.
Merci de votre présence. Et voilà, vous êtes notre seul invité pour ce jour. Malheureusement, l'autre sage-femme qui devait être également sur le plateau a eu un imprévu de dernière minute. Mais rappelons à mes auditeurs que nous parlons aujourd'hui de la sage-femme, de son travail et des défis auxquels elle est confrontée. Alors, Oulémaka Lucie, dites-nous tout simplement, c'est qui la sage-femme?
Ok. Merci bien, madame. Je suis, pour me présenter, je suis Oulémaka Lucie, comme vous l'avez dit. Je suis sage-femme, actuellement ingénieure, option santé publique.
D'accord.
Voilà. Et je suis membre de l'association des sages-femmes ivoiriennes, membre du bureau national. J'occupe le poste de secrétaire chargée des sections. Et ce travail de secrétaire chargé de session, c'est d'être l'interface auprès des présidentes locales, parce qu'il faudrait dire que l'association des sages-femmes, nous sommes organisés en sections. Il y a le bureau national, mais il y a aussi des bureaux au niveau local, au niveau de tous nos districts sanitaires en Côte d'Ivoire. Et nous avons 75 sessions actuellement.
D'accord.
Et nous travaillons à pouvoir sensibiliser les présidentes, au-delà des présidentes, à sensibiliser les sages-femmes à vraiment adhérer à l'association et à vivre selon la vision de l'association.
Une idée du nombre de sages-femmes que vous êtes dans cette association?
Nous sommes autour de 5000 sages-femmes déjà adhérées sur 9600 et quelques sages-femmes que compte la Côte d'Ivoire actuellement.
D'accord. Alors, pour en revenir à la question, c'est qui la sage-femme?
La sage-femme, tout simplement, c'est une professionnelle de santé, mais on dirait un professionnel de santé maintenant, parce qu'il faudrait dire qu'en Côte d'Ivoire, nous avons des sages-femmes, c'est genré.
D'accord.
On a des hommes sages-femmes maintenant.
C'est les maïeuticiens,
oui,
ou pas?
Oui, qu'on appelle maïeuticiens. Mmh. Voilà, c'est le même travail. Voilà. Donc, c'est un professionnel de santé qui est formé pour être entièrement responsable des services et des soins de santé durant la grossesse, l'accouchement et la période post-natale. Voilà. Donc, ce personnel-là, il a responsabilité et toute autonomie pour la surveillance du travail d'accouchement, en salle d'accouchement, et aussi pour l'accompagnement de la femme pendant sa période de grossesse, pour l'aider à se mettre en condition pour accueillir l'enfant qui arrive. Voilà, donc la sage-femme fait un accompagnement psychologique de la femme aussi, de la future maman, pour sa préparation à l'accouchement. Et nous dispensons des soins à la mère, à la femme enceinte, à la mère, au nouveau-né. Et il faudrait dire que la sage-femme travaille dans plusieurs domaines. Nous offrons des services de vaccination, nous offrons des services de planification familiale, nous offrons des services pour l'accompagnement de la grossesse de la femme, ce que l'on connaît plus.
C'est ce qui est plus visible.
Voilà, c'est ce qui est plus visible chez la sage-femme.
Les visites prénatales.
Voilà, les visites prénatales et surveillance du travail d'accouchement et amener la femme jusqu'à à faire accoucher son bébé, c'est ce que tout le monde connaît. Mais nous avons aussi ce rôle caché de cette sage-femme, comme je le disais, qui est aussi éducatrice. Éducatrice pour cette femme qui est conseillère. Et souvent, nous devenions conseillères, même un peu du sexe pour accompagner les
vous
couples.
Vous faites de la santé sexuelle et reproductive.
Oui, oui, on fait de la santé sexuelle et reproductive. Il y a toutes ces compétences-là, vraiment, qui sont chez la sage-femme. Ouais. Donc, voici qui est la sage-femme.
Et donc, quelle est l'importance de la pratique sage-femme dans la chaîne des métiers de la santé?
Il faudrait dire que le métier de sage-femme est un maillon essentiel dans tout ce qui fait santé. Parce que nous sommes à la première ligne de tout ce qui fait santé. Et la sage-femme qui est bien formée, qui a les capacités qu'il faut, elle administre 80% des soins dans la chaîne de santé. Donc, vous voyez combien de fois la sage-femme est nécessaire. Elle est, c'est un métier crucial dans le système de santé. Et elle est pluridisciplinaire parce que la sage-femme, il faudrait dire que nous aussi, nous faisons des soins infirmiers. Voilà. Lorsque vous venez, qu'on doit vous faire une injection, ce sont des soins infirmiers. Lorsque nous devions, par exemple, installer une femme et que nous faisons le lit pour pouvoir l'installer, ce sont des soins infirmiers.
Prendre les constantes aussi, tout
prendre les constantes, ce sont des soins. Tout ça là, c'est le gros paquet des soins infirmiers. Et maintenant, la spécialité qui est de gynéco, qui est l'obstétrique, qui s'ajoute à ces soins infirmiers que la sage-femme. Donc, vous voyez que c'est un grand paquet d'activités pour la sage-femme. Ce qui fait que c'est un métier vraiment noble et crucial.
D'accord. Alors, selon le Fonds des Nations Unies pour la population, les sages-femmes font défaut dans de nombreux pays en développement et c'est dans les régions où le besoin est plus important que la pénurie est la plus marquée. Quelle est la réalité en Côte d'Ivoire? Est-ce qu'on peut dire que les femmes en cas de besoin ont accès aux sages-femmes?
Il faudrait dire...
On va plus parler de la zone rurale.
Oui. Il faudrait dire que en Côte d'Ivoire, nous avons aussi la chance d'avoir un centre de santé intégré, une maternité rurale, vraiment dans toutes les contrées du pays. Et je voudrais dire merci déjà à nos gouvernants qui travaillent à cela, parce que la vision du gouvernement, c'est que toute femme et tout enfant ait accès aux soins d'une sage-femme. Ainsi dit, le nombre de sages-femmes est aujourd'hui progressivement en augmentation.
Vous avez dit plus de 9600.
Oui, mais vous verrez que depuis 2021, de 2021 à 2024, on est passé à 3000 étudiants inscrits à aujourd'hui environ 10 000 étudiants inscrits pour ce métier-là. Pour dire qu'il y a une progression, une évolution pour pouvoir permettre qu'on ait des sages-femmes partout dans le pays. La réalité que nous vivons, c'est que le nombre que nous sommes aujourd'hui en fonction est un peu mal réparti. Un peu mal réparti, et c'est pourquoi on verra dans la zone ouest, nord-ouest, on aura un nombre quand même insuffisant de sages-femmes. Et quand on vient vers Abidjan, on a une multitude de ce personnel-là. Donc, c'est au niveau du dispatching qui cause problème, mais il faudrait dire que le nombre que nous sommes, on peut couvrir quand même le besoin des soins en santé maternelle.
Si ce nombre était mieux réparti.
Était bien réparti.
D'accord.
Voilà.
D'accord.
On pourrait.
D'accord. Mmh. Et quelles sont les difficultés liées à la profession?
Les difficultés que nous pouvons rencontrer, c'est souvent le plateau technique qui souvent est inadéquat. Voilà. Quelques insuffisances.
Concrètement, ça veut dire quoi?
Concrètement,
oui.
Voilà. Concrètement, ça veut dire on trouvera par exemple une maternité où on a un besoin peut-être de deux bosses pour deux lits d'accouchement, où on trouvera qu'un seul lit d'accouchement. Du coup, quand vous rentrez dans cette salle d'accouchement et que vous trouvez deux dames en même temps en travail, on trouvera que l'autre dame n'est pas dans les conditions adéquates pour pouvoir donner naissance à son bébé. Mais qu'est-ce qu'on peut faire? On n'a qu'un seul lit d'accouchement.
Vous faites avec les moyens de bord?
On fait avec les moyens de bord. Donc, il y a cette difficulté du plateau technique qui peut être. Il y a la difficulté aussi, souvent, de l'insuffisance des intrants des consommables qui peut être.
Ça veut dire quoi? Intrants, consommables? Que ce soit plus clair pour les auditeurs.
Voilà, que ce soit plus clair, il faudrait dire, bon, ça peut être en termes de médicaments essentiels qu'il faut. Voilà. On a, mais souvent insuffisant, selon le flux de fréquentation de ce centre de santé-là. Donc, ça peut être insuffisant par moment. Et on travaille avec. Donc, il y a cette difficulté-là aussi qui peut être des zones souvent mal desservies. Moi, par exemple, j'ai travaillé dans la zone d'Aboisso. J'étais pratiquement à la frontière, dans un village où c'était difficile d'accès. À mes premières années, c'était avec les véhicules. Quand on a un véhicule, c'est que c'était des véhicules qui portaient les sacs de cacao et de café qui nous transportaient.
Ou bien l'accès était difficile,
L'accès est difficile. Mm-hmm. Et en saison pluvieuse, en tout cas, c'est pas du jeu parce que c'est une zone avec beaucoup de collines avant d'arriver dans le village. Donc, il peut avoir ce problème-là. C'est aussi une difficulté pour la sage-femme. Mais elle accepte, elle fait le sacrifice d'être là-bas. Et souvent, on peut être coupé de la famille. Hein?
Justement, je voulais poser cette question, l'éloignement géographique par rapport à la famille. Comment est-ce que la sage-femme allie vie de famille et profession?
Bon, le métier de sage-femme, c'est un sacerdoce. Donc, c'est un sacrifice. Voilà. C'est un sacrifice. Et beaucoup y arrivent. Beaucoup ont la chance aussi d'avoir des conjoints qui comprennent. Mais il y en a qui ont aussi perdu des foyers parce que le conjoint peut ne pas comprendre forcément. Voilà. Donc, vous allez voir des sages-femmes. Vraiment, si aujourd'hui nous avons cette forte concentration autour d'Abidjan ou bien dans Abidjan, c'est justement la première raison. Parce que je ne veux pas perdre mon foyer, je ne veux pas perdre ma famille. L'homme, quand il vient avec ce que j'ai expliqué, qu'il doit arriver dans ce village-là, il arrive tout cassé, il ne fera pas plus de deux fois cette route pour venir te voir. Et c'est toi qui, à chaque fois, es obligé de venir. Mais on essaie de jongler entre le métier et la famille. Parce qu'il faudrait dire que le travail épanouit. Donc, on veut aussi notre épanouissement. On veut notre épanouissement. Et à côté de ce qui peut être notre épanouissement, on veut aussi donner le meilleur de nous-mêmes, faire du bien autour de nous. Voilà. Parce que faire du bien, c'est arriver à faire ce sacrifice-là pour l'autre. Et c'est ce que maintes sages-femmes font.
D'accord.
Pour donner un élément de réponse, sinon il y a beaucoup d'éléments de réponse qu'on peut donner.
D'accord. Amis auditeurs, rappelons qu'aujourd'hui nous parlons de la sage-femme, les réalités vécues au quotidien, les difficultés. Et pour ce faire, nous sommes avec Oulemaka Lucie de l'association des sages-femmes ivoiriennes ASFI. Alors, selon l'OMS, Oulemaka Lucie, les données provenant de 15 des 18 centres de santé enrôlés dans l'initiative Beke Laola, je ne sais pas si vous connaissez cette initiative.
Oui.
D'accord. Alors, pour réduire les décès maternels, il faut ressortir une amélioration progressive de la qualité des soins, notamment dans l'accueil et l'accompagnement des femmes pendant la grossesse, l'appui psychologique pendant et après l'accouchement, qui est passé de 43,5% en 2021 à 59,3% en 2023. Alors, est-ce que ces chiffres sont à l'image d'autres centres de santé de Côte d'Ivoire?
Oui, il faudrait dire qu'il y a une bonne évolution. Quand on prend les chiffres de façon nationale, nous verrons que nous sommes passés de 614 décès en 2012 à 385 décès pour 100 000 naissances vivantes en 2021, selon l'EDS Côte d'Ivoire. Et l'initiative Beke Laola vraiment a véritablement fait un travail parce que dans ce projet, il y a eu cette auto-évaluation qui a permis à ces différents centres-là de pouvoir remonter la pente. Voilà. Ils ont été sujets à une grille de questionnaires que eux-mêmes, ils s'administraient ça leur permettait de passer en revue tout ce qui était comme activité et de comprendre où se trouvaient les failles, comment remonter ces failles et comment arriver à améliorer ces chiffres-là aujourd'hui. Et nous saluons cette initiative-là et nous profitons pour demander si ces partenaires peuvent étendre cela vraiment sur tout le territoire, ce sera vraiment meilleur. Il faudrait dire qu'il y a des régions aussi comme la région du Folon qui, par exemple, sont à pratiquement zéro décès maternel. Donc, il y a des régions qui se démarquent. Il y a aussi ce qui peut arriver. Mais il faudrait dire que tout décès maternel n'est pas forcément dans le centre de santé. Et ça peut être des décès maternels qui ne sont pas forcément du fait de ce personnel-là. Voilà, c'est pourquoi on parlera de décès maternel évitable. Voilà, donc la sage-femme dans la pratique de sa fonction doit agir de telle sorte à éviter des décès maternels. Donc, elle doit arriver à faire une prise de décision aussi rapide, être agissante aussi rapidement dans ses prises de décision pour ne pas arriver au retard. Car tout retard peut conduire vraiment soit au décès de la mère, soit au décès du nouveau-né, ce qui vraiment n'est pas le résultat attendu par la communauté. Il faudrait dire que toutes ces initiatives aident. Nous avons eu des communications qui étaient essentiellement faites par des sages-femmes. Et ces communications tournaient autour des bonnes pratiques. Certaines sages-femmes venaient partager leurs bonnes pratiques au niveau de leur service. Et nous, quand je dis nous, moi par exemple, j'ai eu à communiquer sur la place de l'accueil et de la communication dans l'intégration des services. Ça nous a permis de toucher du doigt parce que nous sommes partis d'un certain constat qui a été fait dans plusieurs districts et dans plusieurs centres de santé.
Notamment ?
Nous ne pourrons pas citer parce que nous n'avons pas...
Juste une idée.
Oui, bon.
De ce qui a été, ce qui vous a été remonté comme information.
Voilà, ce qui a été remonté comme information. On parlait, par exemple, du mauvais accueil. Voilà. Qu'est-ce qu'on reprochait aux sages-femmes dans cette enquête, dans cette évaluation que nous avons eu à faire auprès des clientes? C'était le mauvais accueil. C'était l'insuffisance au niveau de la communication et cela nous a permis de pouvoir faire notre communication autour de ces deux thèmes-là. Et ça nous a permis de nous adresser à ces 1000 sages-femmes qui étaient là à Bangoro pour dire que le gage des soins de santé de qualité passe par l'accueil, passe par une bonne communication. Parce que si la femme vient à nous et que le premier contact est déjà faussé. La première minute du premier contact est faussée. Elle venait déjà avec une appréhension. Elle venait avec des intentions qui peut-être étaient fausses ou bien qui peut-être étaient vraies.
Des a priori.
Des a priori. Mais quand elle arrive, elle trouve soit confirmation dès la première minute du contact ou infirmation dès la première minute du contact. Pour nous, il serait donc important de vraiment réserver un bon accueil à la femme et surtout d'être à l'écoute des besoins des femmes qui viennent à nous, savoir les écouter. Je disais tantôt que c'était un personnel, un professionnel formé qui devait accompagner psychologiquement la femme. Et pour pouvoir accompagner psychologiquement, si tu ne sais pas écouter, tu ne seras pas à même de détecter le besoin que la femme a. Son besoin peut ne pas être forcément un besoin de maladie. Son besoin peut ne pas être forcément lié à son état de grossesse. Mais son besoin peut être psychologique. Ça peut être quelque chose qui stresse la femme, quelque chose qui fait déprimer la femme depuis son domicile et elle avait besoin d'une oreille pour l'écouter. Mais la première minute arrive souvent à biaiser tout ce contact-là et l'on part avec tous les mots qu'on peut donner. Voilà.
Ça rend les femmes plus méfiantes.
Voilà. Tous les qualificatifs qu'on peut donner à la sage-femme aujourd'hui. Voilà, donc voici un peu.
Mais est-ce que, justement, parlant de bonnes pratiques, l'ancienne génération de sages-femmes et la nouvelle génération, il y a un partage d'expérience?
Effectivement. Mm-hmm. Effectivement, il y a partage d'expérience. Vous allez voir avec la direction des soins infirmiers maternels et infantiles, par exemple, il y a eu ce projet de mentor. Les mentors, ce sont les anciennes, comme vous le dites, qui ont été formées pour accompagner la jeune génération sur le terrain. Et avec l'association des sages-femmes, avec l'appui des partenaires, par exemple, nous avons eu de 2023 à 2024 à former 110 mentors aux soins maternels, néonatales et infirmiers, aux soins essentiels, aux nouveau-nés, aux soins de planification familiale, aux soins de vaccination. Nous avons accompagné et ces 110 mentors, c'était dans 5 régions, Abidjan 1, Abidjan 2, Boklé, Nawa et San Pedro. Et ces 110 mentors et avec l'appui du niveau central, c'est-à-dire le bureau national, que nous sommes les membres du bureau national, nous sommes allés dans les différents districts que comptent ces régions-là pour pouvoir rencontrer les sages-femmes, pour pouvoir les briefer, pour pouvoir les coacher. Donc, pour dire que nous travaillons, l'association travaille à cela, nos directions travaillent à cela, les programmes au niveau de la santé travaillent à cela. Et ça, c'est un domaine qui est vraiment touché du doigt et ça marche bien.
D'accord. Mmh. Comment votre association s'organise pour inciter les femmes à fréquenter les centres de santé, surtout en zone rurale? Quand on sait que généralement elles sont un peu réticentes, elles choisissent de se tourner vers la médecine traditionnelle.
Je prends tout simplement l'exemple. Dans le cadre des journées de la sage-femme, l'association des sages-femmes est rentrée dans la région du Douabien, c'est-à-dire à Bangourou, à Nibilekro, Anda. On a eu affaire à la sensibilisation au niveau communautaire, des porte-à-porte, aller vers les coiffeuses dans leur salon de coiffure, vers les couturières dans leur salon de couture, même auprès des mécaniciens, parce qu'aujourd'hui, on a des femmes qui sont mécaniciens. Voilà, on est rentré même chez les cordonniers, même chez les hommes, pour pouvoir leur parler du métier de la sage-femme, pour pouvoir leur parler de ce que nous faisons dans une maternité. Donc, on a voulu être proche. Et c'est ce qu'on fait lorsque nous nous déplaçons d'une région à une autre pendant ces journées. Et au niveau organisationnel, comme je vous le disais, nous avons ces sessions locales-là. Elles essaient de travailler au niveau local. Et vous verrez que ces sections ont un plan d'activité où elles vont dans les écoles pour sensibiliser nos jeunes à zéro grossesse en milieu scolaire, pour sensibiliser aussi les non-scolarisés, parce qu'il ne faudrait pas laisser cette tranche aussi de population, les jeunes non-scolarisés, qu'on peut retrouver, comme je le disais, dans les salons de coiffure, dans les salons de couture. Donc, on va, au niveau local, ces associations, ces sages-femmes vont vers ces personnes, où on organise aussi des consultations foraines, où nous administrons les soins de façon gratuite à ces personnes-là. Donc, nous communiquons. Nous allons dans les mosquées, dans les églises.
Est-ce que vous allez dans les villages aussi?
Oui, mais s'il y a déjà une sage-femme d'un village, elle travaille à cela.
Mais comment est-ce que la sage-femme,
histoire,
par exemple...
Moi, oui, mon histoire, allez-y. Par exemple, lorsque j'étais en fonction dans ce village à Kotoka, c'est comme ça que le village s'appelle. Donc, je faisais des visites dans le village, dans les concessions. Voilà, j'étais amie, je faisais l'effort de connaître toutes les femmes du village par leur nom. Voilà, parce que les femmes...
Ça rapproche un peu plus.
Oui, oui, les femmes aiment bien ça. Qu'elles viennent à la vaccination sans même toucher son carnet, puis tu dis, connais Sally, elle est déjà heureuse. Elle se dit, ben tiens, la sage me connaît. Donc ça lui donne encore envie de revenir parce que tu la mets dans le bain. Et nous nous déplaçons jusqu'à leur domicile pour pouvoir parler de ce que nous faisons à l'hôpital. Et souvent, quand nous nous déplaçons, nous voulons inviter même le mari. Quand c'est une femme enceinte, nous invitons le mari dans une plaisanterie, dans une causerie. Ah papa, prochainement, quand elle va venir, il faut venir avec elle, hein, parce que j'ai des bonnes choses pour toi là-bas. Et quand il vient, ça nous permet de causer autour de ce qui peut être leur difficulté niveau santé. Voilà. Donc, c'est comme ça que, au niveau de la santé communautaire, nous travaillons à la promotion de la santé pour les familles, à la promotion de la santé pour la communauté. Et on a ce que nous appelons des radios au niveau de ces villages-là. Voilà. Le monsieur, il est assis comme on est assis là. Il a un haut-parleur qui s'élève sur tout le village. Et nous allons là-bas quand nous avons besoin de parler, par exemple, de la planification familiale. Parce que quand j'arrivais dans le village, c'était vraiment à 0% de femmes qui venaient pour ce service-là. Donc, il a fallu que je puisse aller à cette antenne, aller, par exemple, même si ce n'est pas aussi accepté côté religion, mais nous brossons d'une façon ou d'une autre pour pouvoir leur expliquer que venir à la planification familiale, offrir des méthodes de planification familiale à la femme, permet à leur femme de redevenir plus belle pour eux, pour pouvoir les séduire davantage encore. Et c'est comme ça que nous essayons d'aborder les hommes pour l'accompagnement pour ces femmes-là, pour qu'ensemble, ils se mettent avec la femme pour pouvoir faire le choix de la méthode. Parce que si ce n'est pas fait ensemble, tu vas convaincre la femme. Elle va accepter la méthode. Mais si elle n'est pas due de caractère, ou bien si elle ne sait pas cacher, parce que beaucoup le cachent, si elle ne sait pas le cacher, que la découverte se fait, souvent elles sont brimées. Voilà, elles sont brimées et ça fatigue. Elles vont te revenir avec beaucoup, beaucoup de pleurs, beaucoup d'explications. Donc, il faut travailler à ce que l'homme lui-même
s'implique
pour accompagner la femme.
Olemeka Lucie, pourquoi vous avez choisi d'être sage-femme?
Il faudrait dire que c'était prédit, mais c'était pas la première option pour nous. Moi, très jeune, j'aimais les métiers au galon. J'avais voulu être corps habillé. Voilà. Et j'ai fait un BTS en logistique, transport logistique. J'ai fait un DUT en transit douane. Donc, je me suis dit qu'avec ça, je pouvais rentrer à la douane, je pouvais faire, mais j'ai tapé toutes ces portes. Jusqu'à ce qu'en 2004, j'étais très enceinte de mon premier. Lorsque un aîné rentre chez moi à domicile pour me dire, ah, le Seigneur me dit de venir te dire qu'il y a une place de sage-femme pour toi. Et en 2005, je postule à un poste d'officier, les eaux et forêts, ça marche. Je postule pour le métier de sage-femme, pour le concours, ça marche. Et je devais rentrer à l'école des eaux et forêts un dimanche. Le jeudi d'avant, le résultat pour le concours de sage-femme sort. Et c'est comme ça que j'ai abandonné mon idée des galons. Je me suis retrouvée à l'INFAS et je suis de la promotion 2006-2009 Abidjan de l'INFAS. Voilà.
Et qu'est-ce que vous aimez dans ce métier?
Qu'est-ce que j'aime? Ah, je serais tellement lâche pour dire que j'aime tout. J'aime ce métier. Voilà, c'est vrai que c'était pas la première option, mais je l'aime. Je l'aime parce que c'est un métier qui te permet de connaître l'homme dans toute son intégralité, dans toute sa globalité.
Et il faut avoir des qualités particulières pour exercer cette profession. Vous avez parlé d'être un peu psychologue, être à l'écoute, la compassion, tout
oui,
ça.
Oui, il faut être empathique, il faut avoir de la compassion. Et moi, j'ajouterais à cela, il faut avoir une vie de prière. Voilà. On peut ne pas être forcément chrétien ou musulman, mais ce à quoi tu crois, il faut demander à ce être suprême-là de t'aider à la maîtrise de toi-même dans cette profession et à t'aider à avoir de l'amour pour l'autre, pour cette profession. Parce que, vous voyez, la sage-femme est entre souvent émotion de joie et émotion de tristesse. Émotion de joie quand tu as aidé la femme à donner vie à ce bébé et que elle part de ses cris de douleur à arriver à un cri de joie, ça te fait aussi ce boom de joie-là. Parce que Dieu nous permet d'être les premiers à voir l'enfant qui naît. La mère même qui a porté sa grossesse ne voit pas cet enfant. La sage-femme, elle est la première. Pour dire combien de fois, c'est un métier qui est béni. C'est un métier qui est béni. Et l'émotion de tristesse, c'est vivre avec cette femme-là et peut-être, quand ça ne marche pas, la voir s'éteindre. Voici une émotion de tristesse qui peut être. Mais moi, je rends grâce à Dieu parce que de plus de 10 ans que j'ai eu affaire en salle d'accouchement, je n'ai pas eu de cas de décès maternel. Et ça, pas parce que je suis trop forte, pas parce que c'est comme si, mais parce que tout simplement, c'était une grâce de Dieu. Et je voudrais vraiment dire merci parce que c'est possible. C'est possible pour nous, sages-femmes, lorsque nous nous accrochons, en tout cas à cette tête suprême, pour pouvoir nous aider dans l'exercice de notre profession.
D'accord. On va terminer. Un mot pour la fin. Un appel à lancer aux populations. Un appel aussi pour améliorer les conditions de vie et de travail des sages-femmes en Côte d'Ivoire.
On va commencer par le dernier qui est un appel pour l'amélioration des conditions de travail. Ce que nous voudrons vraiment demander à tous ceux qui nous soutiennent, notre ministère, notre ministre en premier plan, nos directions, nos programmes, nos partenaires, c'est de véritablement nous aider en tant que sage-femme à l'amélioration de nos plateaux techniques, aussi à la disponibilité vraiment de ce qu'on appelait tantôt un train consommable qu'on a eu à expliquer. Voilà. Et il faudrait que le dispatching de ce personnel sur les territoires soit vraiment bien fait, car l'épuisement professionnel fatigue souvent les sages-femmes. Parce que si je suis seule dans mon village, je suis obligée de travailler jour et nuit. Nous prions aussi afin que nos gouvernants puissent mettre en place un système d'assurance maladie et de sécurité sociale pour ce corps sage-femme-là, car beaucoup exposé et dans beaucoup de sacrifices. Et pour terminer, nous allons demander quand même une motivation. Faire un clin d'œil pour qu'ils puissent revoir nos conditions, peut-être. Voilà, parce qu'il faut motiver. Il faut motiver à plusieurs choses. Et il faudrait dire que cela est en train de faire, parce que la motivation au niveau professionnel aujourd'hui, il y a cette avancée qui est permis pour la sage-femme de passer de cette sage-femme diplômée d'État à arriver à être sage-femme spécialiste en santé sexuelle, santé reproductive. Et il faudrait dire aussi que il y a aujourd'hui cette filière de pseudo-psychiatrie qui est ouverte pour la sage-femme. Donc, pour dire que la sage-femme aujourd'hui, si elle veut avancer dans son domaine de gynécologie, d'obstétrique, elle peut toujours avancer là-dedans. Et nous saluons vraiment cette initiative, nous saluons notre ministère qui travaille à cela. Et merci à toutes les sages-femmes, parce qu'il faudrait dire que la sage-femme, nous sommes dans la population, nous travaillons pour la population, nous travaillons avec vous. Et nous avons toujours besoin de votre soutien, nous avons besoin de votre reconnaissance, nous avons besoin de vos accompagnements. Parce que aujourd'hui, il n'y a pas de famille où il n'y a pas un agent de santé. On a un agent de santé dans toutes les familles aujourd'hui. Donc, parler à l'agent de santé de ma famille pour l'amener à être meilleur, c'est permettre à tout ce groupe de sages-femmes que nous sommes au niveau de la Côte d'Ivoire à être meilleur et à offrir des soins de qualité à nos populations pour la satisfaction des besoins en santé de nos femmes, de nos enfants et de toutes les femmes en âge de reproduction. Merci aussi à Radio
de la paix
qui nous a permis d'être là pour pouvoir échanger, mais pour pouvoir parler à cette population et pour pouvoir parler aux sages-femmes. Donc, j'ai dit aux sages-femmes, ensemble, pour une profession forte. Restons fortes parce que le monde a plus besoin de nous et je dirais, les femmes de la Côte d'Ivoire ont plus besoin de nous plus que jamais. Merci.
Je vous remercie. Aujourd'hui, le sujet de discussion a mis en exergue la profession de sage-femme en Côte d'Ivoire. Les sages-femmes sont les principales prestataires de soins auprès des femmes et de leurs nouveau-nés au cours de la grossesse, du travail, de l'accouchement et de la période post-partum. Une sage-femme bien formée est en mesure de fournir des informations et des services en matière de santé sexuelle et reproductive, notamment des soins prénatals, des soins obstétricaux visant à sécuriser l'accouchement et des soins post-partum ou post-natal. Les sages-femmes qui, rappelons-le, sont plus de 9600 en Côte d'Ivoire en 2024, vous l'avez dit, jouent un rôle crucial dans la réduction de la mortalité et de la morbidité maternelle et néonatale. Notre invité du jour vous l'a dit, amis auditeurs, Oulémenka Lucie, encore merci d'être venue sur notre plateau.
Madame.
On rappelle que vous êtes de l'association des sages-femmes ivoiriennes ASFI.
C'est ça. Merci beaucoup.
Je vous en prie.
C'était Sujet de discussion.
Présentation Sonia Nzianga.